Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Que le diable nous emporte, les critiques Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Éric Neuhoff du Figaro pour parler du Diable nous emporte de Jean-Claude Brissot, mais également des films d'Alexander Payne, de Normandie nue de Philippe Le Guay, Hong Sang-soo, Naomi Kawase, Les heures sombres sur Monsieur Churchill et puis El Presidente de Santiago Mitre. Dans le courrier de la semaine et dans la série, les auditeurs sont plus durs que les critiques. Adrien Teur nous a trouvé bien laxiste avec, je cite, « l'immonde réadaptation du crime de l'Orient Express » par Kenneth Branagh, où Johnny Depp, Penelope Cruz et les autres ressemblent à des monuments en péril mal ravalés. Odile Roire se demande comment les critiques du masque peuvent manifester autant de complaisance envers le film d'Alain Chabat, Santa et compagnie, dont les intentions sont claires, se faire un maximum de fric pour Noël, mais non d'un lutin, c'est nul. Danny Fraissinet, reste avec nous Michel, n'a pas aimé un film que nous on a beaucoup aimé ici au Masque, qui est un homme intègre que le Masque a porté au nu. L'histoire, c'est Ken Loach chez les Perses, les péripéties, c'est une séparation que du déjà vu, en plus c'est trop long, parfois c'est ridicule, comme le bain de pureté dans la grotte primale. Pierre Cusor tient à juger que Les Gardiennes de Xavier Beauvois est au cinéma ce qu'un canevas représentant l'Angélus de Millet est à la peinture contemporaine, c'est soporifique et énervant. Claire Auguste, qui habite près de Nantes, estime pour sa part que Les Gardiennes de Xavier Beauvois est une suite d'images d'Épinal doublées d'une méconnaissance du monde paysan où, en 1915, et ça, effectivement, Xavier Beauvois et le Harper ne le savaient pas, on se met les céréales qu'une fois par an, soit en automne pour les blés d'hiver, soit au printemps pour les blés de printemps plus tardifs. Et puis, Prosper Constantin du Havre nous reproche de lui avoir donné envie d'aller voir L'échange des princesses de Marc Duguin, qu'elle purge. Je résume, un tiers de chevaux qui tirent des calèches au soleil couchant, un tiers de personnages en perruque qui marchent très vite dans des longs couloirs, un tiers d'écoliers du club théâtre qui se demandent « tu crois qu'il m'aime ?» Vous m'inquiétez, je crains que vous n'ayez abusé des bonnes choses pour les fêtes. Éric Lévesque, sur votre recommandation de réveillon, c'était effectivement le 31 au soir, nous fûmes allés voir Les Changes des Princesses. Et quelle ne fut pas notre déception, mise en scène avec un chausse-pied. Photo ténébriste à souhait, c'est Joséphine Ange Gardien perdue au XVIIIe siècle. Eh oui, c'est comme ça, je vous ai dit, le courrier, c'est... et encore, j'ai fait un choix. J'ai pas pris les pires. Et pour finir, je me fais sermonner par Antoine David, et il n'est pas le seul, qui nous écoute en podcast depuis Buenos Aires, connaissant bien l'émission, étant un grand fan de Star Wars, je n'ai pas... par précaution, écoutez celle du 17 décembre sur le dernier volet de la saga. Tout allait bien pour moi jusqu'au 31 décembre, où vous, Jérôme Garcin, me crucifiez en révélant la mort de Skywalker lors du courrier des auditeurs. Ainsi, vous apparaissiez à mes yeux du même acabit que Michel Simon, à ceci près que ce dernier, on s'attend toujours avec lui à ce qu'il gâche la fin d'un film. Mais je ne redoutais rien de tel de votre part. Je vous dis tout de même à la semaine prochaine. Tu veux rien ajouter sur la mort?
Quand il y aura un film sur Louis XVI, je ne dirai rien. Sur Napoléon, absolument rien, parce qu'il faut préserver la surprise.
Oui, mais sur Le Masque de Fer.
Surtout sur Titanic.
Titanic aussi.
Downsizing, qu'on peut traduire par réduction, c'est un long film, 2h15, de science-fiction signé Alexander Payne, à qui on doit Les Descendants, Nebraska. Et c'est avec notamment Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, il s'agit pour lutter contre la surpopulation. Encore fallait-il y penser, des scientifiques norvégiens l'ont fait, de réduire, et de manière irréversible, les humains à une taille d'environ 12 cm. Et qui dit miniaturisation, dit moins de consommation, dit augmentation du niveau de vie, etc., etc. Le couple modeste du Nebraska, formé par Matt Damon et Kristen Wiig, décide alors de se lancer dans cette aventure qui va changer sa vie, enfin, surtout celle, je n'en dis pas plus, de Matt Damon. Je trouve que le sujet est plutôt bon. Le film, malgré sa longueur, m'a semblé un tout petit peu rikiki. Eric ?
La première demi-heure est assez réussie. L'idée est bonne, mais ensuite...
L'idée est bonne, oui.
Il n'en fait pas grand-chose. Hein. Faut partir au bout d'une demi-heure, faire comme certains personnages. Et non, parce que là, la transformation, comment on se fait opérer pour devenir un tout petit bonhomme de 12 cm, ça, c'est assez bien fichu.
C'est même assez convaincant.
Bah oui, parce qu'on vous arrache les dents avant la miniaturisation, parce que
ça on peut le raconter. Ça.
Oui, ça on peut.
Ça on peut.
On vous rase partout, et ensuite on se retrouve tout petit dans des petites boîtes. Et effectivement, ça coûte beaucoup moins cher. On ne mange rien, ça fait faire des économies. La
planète. Tu te rends compte, on ferait un mini masque et la plume avec des. Ça serait bien ça.
De 4 minutes.
Avec des tout petits cachets.
Ah oui.
Ils sont déjà pas énormes.
Ça sera négatif, alors. Non, mais c'est dommage de voir ça, parce que Alexander Payne est un cinéaste très intéressant. Et là, ce côté swiftien, Gulliver à l'envers, ces choses-là, c'est complètement attendu. Surtout qu'une fois qu'ils sont dans ce monde tout petit, ça ne change rien à leurs habitudes, il ne leur arrive rien de spécial, alors qu'ils devraient être complètement déboussolés. Et là, toute la vie continue, il y a le voisin du dessus qui est Christoph Waltz qui lui, même petit, tient à dire qu'il est le plus mauvais acteur du monde. Hein, ça... il est épouvantable. Alors, il joue un trafiquant qui se fait de l'argent. Il y a une vietnamienne unijambiste qui, elle, est un peu le Jiminy Cricket de Matt Damon. Et on s'aperçoit que là, il y a toujours des riches et des pauvres. Mais surtout, techniquement, c'est très mal foutu parce que à la fin, ils partent tous pour la Norvège.
Non, mais attends. On ne sait pas s'ils partent.
Comme ils mesurent 12 cm, ils sont sur des grands fjords, sur un bateau, mais ils devraient être dans une flaque d'eau. Et là, on voit des montagnes gigantesques et la dimension n'existe pas du tout. Donc, vous restez une demi-heure à ce film et ensuite, vous allez dans la salle d'à côté avec votre multicart pour voir un autre film.
Jean-Marc ?
Bah oui, c'est un film qui est très décevant par rapport à ce que promet sa première demi-heure parce que le pitch est vraiment génial. Et toute la première demi-heure, on est dans le registre du conte philosophique. Effectivement, on pense à Swift, à Voltaire et c'est très très gracieux la manière dont les effets spéciaux numériques servent cet imaginaire comme ça de la miniaturisation. C'est très joli et à partir du moment où ça s'est accompli, au bout d'une demi-heure, qu'on a découvert ce lieu extrêmement séduisant, on bascule du conte philosophique à une sorte de drame existentiel assez peu intéressant, avec une histoire d'amour très très mièvre dans sa résolution, un personnage de réfugié politique vietnamienne qui est totalement raté, où le personnage est vraiment très très lourdement typé, on est dans la caricature, c'est extrêmement même problématique.
Moi je suis complètement d'accord avec... Effectivement, il y a un accent vietnamien extrêmement prononcé qui en est gênant.
Oui, qui est même un peu louche, enfin qui est très très malaisant, et effectivement Christopher Valls, il est vraiment au bout de quelque chose, quoi. Il faut qu'il arrête. Il a un degré de cabotinage où ça devient extrêmement pénible. Donc voilà, moi, j'ai vraiment marché une demi-heure et puis tout à coup, le film se déballonne complètement.
Alors, Charlotte.
Oui, je rejoins mes camarades. C'est vrai que le début est très réjouissant, d'autant que dans ce mini-monde qui est un monde sous cloche, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont miniaturisés, ils vivent sous une grande cloche dans un monde idéal où ils ne vont passer leur temps qu'à prendre des cours de yoga, jouer au tennis, manger. Les gens ne travaillent plus. Donc, une espèce de dénonciation de l'American way of life, on va dire. Et Alexander Payne, là, critique vraiment le consumérisme et en même temps les travers des hommes qui vont reproduire, même à toute petite échelle, la violence sociale, un creuset de plus en plus fort entre les riches et les pauvres, tout ça reste en place. Et effectivement, tout d'un coup, le film s'effondre dans sa deuxième partie, qui fait quand même plus d'une heure, hein, donc on est quand même sur un gros morceau, où là, il y a une espèce de préchi-précha insupportable qui est doublé de cette histoire romantique dont parlait Jean-Marc, qui est totalement niaise et convenue.
Sans qu'il y ait aucun suspect.
Rien du tout, il ne se passe rien. Et puis surtout, alors musique sirupeuse, on y va, et même Alexander Payne, tout d'un coup, alors que le film semblait être un cri d'alarme écologiste, quand même, de faut faire attention à notre planète, trouvons des solutions et tout, et ben les écologistes sont montrés comme une espèce de secte d'illuminés. Enfin, c'est très étrange le message final qu'on ne révélera pas, mais en tout cas, le film s'embourbe dans les bons sentiments in fine, et c'est vraiment dommage. Bon. Ça se déballonne complètement.
Michel ?
Oui, c'est. C'est vrai que j'ai vu des articles assez dithyrambiques sur un film qui m'ont
cette semaine dithyrambique.
J'étais stupéfait parce que moi j'aime beaucoup Alexander Payne, qui est un cinéaste d'habitude qui faisait plutôt des road movies ou des films sur
les
la
descendants,
famille.
C'était pas mal.
Ah, les descendants, c'était très bien. Sideways, Mr. Schmidt, Nebraska, il a même fait ce Nebraska, puisqu'il est lui-même du Nebraska, donc ça lui tient à cœur de traiter des gens du Middle West. Mais moi, d'abord, il aurait dû diminuer son film déjà. C'est-à-dire que le downsizing aurait dû s'appliquer au film lui-même. C'est parce qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il fait 2h15.
2h15,
et on les sent passer.
Et alors, d'autre part, moi, ce qui m'a choqué, c'est que chez Swift, les Lilliputiens continuent d'être Lilliputiens jusqu'à la fin du livre de Swift. Tandis que là, comme c'est Matt Damon et que les spectateurs veulent du Matt Damon grandeur nature, au bout de quelques plans, il devient taille normale. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire un film avec des Lilliputiens tout le temps. Ça aurait été merveilleux, ça aurait été un film d'animation, peut-être très inventif. Donc c'est vrai qu'on est dans la répétition, on est dans la non-utilisation de son concept. Il a voulu faire du Capra, il a voulu faire une fable utopienne ou dystopienne, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose.
Mais je suis comme toi, j'étais très frappé par l'accueil qui a été réservé, alors c'est vrai que ce n'était pas une semaine très très riche, assez exceptionnelle à ce film. Downsizing d'Alexander Payne, est-ce qu'il y a des réactions dans le public sur ce film? Non. Et un nouveau film sur Churchill. L'an passé, je vous le rappelle, on en a eu trois films sur Churchill. Il y en a eu beaucoup moins sur le général de Gaulle, Tu as remarqué, Eric?
Oui, c'est moins facile.
C'est pas la même dimension. Ouais.
Et donc, voici avec Gary Oldman, Les Heures Sombres de Joe White, le réalisateur d'Orgueil et Préjugés, un film, là aussi, de plus de 2 heures, qui se concentre sur la prise de pouvoir de Churchill. 65 ans, premier lord de l'amirauté en mai 40, et surtout ses hésitations face à Hitler, du moins au début. Est-ce qu'il faut négocier avec l'Allemagne nazie? Est-ce qu'il faut résister? Pour ne rien arranger, le roi George VI et Ben Mendelssohn et le parti conservateur conspirent contre le premier ministre, d'où les heures sombres de Churchill, et celles qu'on imagine que j'ai imaginé de Gary Oldman, que les maquilleurs et prothésistes ont transformé en sorte de sosie du musée Grévin.
Ou de Serge Moati.
Ça, je me permets.
Mais si, avec les petites lunettes.
Ça ne regarde que toi.
Je le salue.
Christine Scott Thomas dans le rôle de sa femme, Clementine Churchill, qui, contrairement à son mari, ne trempe pas son cigare dans le whisky. Non, c'est pas un jeu de mots, c'est... Et une scène imaginaire où Churchill va à la rencontre des Londoniens dans le métro, qui est une scène évidemment très patriotique, très brexitienne, avant la lettre, mais qui, elle, est totalement imaginaire. Michel ?
Alors, on a parlé à un moment, la Nouvelle Vague parlait de la qualité française, qui pour moi d'ailleurs n'était pas un défaut, Clouseau ou Clément. Là, il s'agit de la qualité britannique, c'est-à-dire que les Anglais savent bien faire le film patrimonial, soit l'adaptation littéraire, soit un moment historique. C'est-à-dire que le spectateur ne va pas être volé. Il sait ce qu'il va voir.
Il n'y a pas non plus à être surpris.
Non, il sait ce qu'il va voir, mais en même temps, le film se suit. Pourquoi ? Parce que alors, j'ai lu dans un hebdo, on disait, pas le tien, Jérôme, mais on disait, c'est dommage parce qu'on n'égratigne pas du tout ce monument qu'est Churchill. C'est même hallucinant, parce que Churchill, en 1940, c'est l'homme qui a changé la face du monde. C'est-à-dire, Churchill n'aurait pas été là, l'Europe était entièrement nazie. Donc, un homme...
Tu as raison, mais c'est pas le reproche qu'on peut faire.
Non, mais je trouve que ce film peut-être présente un Churchill tout à fait passionnant. Si c'était un biopic, il faudrait montrer qu'il était antisémite 20 ans plus tôt, qu'il était colonialiste, il avait des tas de défauts. C'est comment un homme, à un moment historique, trouve la force de se battre. Et là, le film le montre très bien. Les séances à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, sont formidables. Les discours qu'on a déjà entendus dans Dunkerque, parce qu'il y avait aussi Dunkerque qui ne parlait pas de Churchill, mais qui parlait de la même époque. Donc, moi, j'ai suivi ça parce que j'ai une grande admiration pour cette époque de la vie de Churchill. Je pense que c'est un homme qui a changé le XXe siècle. Et si le cigare de Churchill avait été plus court, la face du monde aurait changé, comme pour paraphraser Pascal. Je pense que c'est un acteur fondamental de l'histoire du XXe siècle, peut-être le plus grand homme du XXe siècle, parce qu'il a évité l'esclavage au reste du monde. Et je trouve que le film remplit son contrat. On va pas chercher des inventions stylistiques, on va pas chercher... Et je trouve que Gary Oldman, qui ne ressemble pas du tout à Churchill, arrive à nous faire croire à Churchill.
Un très plan-plan, Jean-Marc.
Oui, le problème, c'est pas tellement que le film ne remette pas en question ce qu'a compris Churchill. C'est qu'on n'est pas face à un personnage qui serait un être vivant. On est vraiment face à une caricature. Et la complexité de ce qui a amené Churchill à prendre cette décision qui a été validée par l'histoire du XXe siècle comme un acte incroyable de courage et de et surtout de clairvoyance. Je trouve que c'est simplement le fait d'une sorte d'accentrique géniale qui est montrée comme ça, une sorte de marionnette, vraiment, dont Gary Oldman est le marionnettiste extrêmement grossier, avec la complicité trop envahissante d'un département maquillage qui a vraiment tout pouvoir. Et je trouve que ça ne donne pas un personnage, et que c'est la vraie dérive du biopic depuis une dizaine d'années, je dirais.
Mais c'est
depuis,
pas un biopic, c'est uniquement un an dans la vie.
Le biopic a toujours un angle aujourd'hui. Il y a rarement des biopics de la naissance à la mort, c'est toujours anglais sur une période depuis au moins 10 ans, avec ce travers qui est de transformer les personnages illustres en monstres de foire. Et on a vraiment le sentiment d'assister à un numéro de cirque où Gary Oldman est totalement dépassé par ce qu'accomplit le service maquillage, et on n'a jamais du tout la complexité du vivant. Et par ailleurs, moi, je trouve le film pas bien fait du tout en termes de mise en scène, qui vise toujours un côté un peu allegretto, des personnages qui marchent très vite avec des violons stridents pour donner beaucoup d'énergie. Il y a une mise en scène extrêmement dopée qui finit, moi, vraiment par me taper sur le système, et le film est très ennuyeux alors qu'il vive la vivacité tout le temps.
Bah moi, Churchill, on peut me le mettre à toutes les sauces. Moi, je marche toujours.
Je pose la question aux critiques de cinéma, pas aux chroniqueurs de Figaro.
C'est un tel personnage, on peut le voir en marionnette, en 3D, en dessin animé. Et là, c'est le biopic sur une période essentielle. C'est ça, les bons biopics. C'est choisir un épisode qui révèle le personnage. Et c'est vraiment intéressant. C'est bien fichu, moi, je trouve, à part la petite préciosité qui consiste à prendre un tas d'images vues du ciel, ça c'est un petit peu fatigant, et la musique qui en rajoute
et
beaucoup par moment. Mais l'histoire en question est tellement passionnante qu'on marche à fond. Lui, Gary Oldman, il est pas mauvais du tout, mais je me demande pourquoi on va chercher des types qu'il faut maquiller pendant 4 heures alors qu'il y a un Albert Finney qui pourrait très bien le faire en étant là une demi-heure avant.
Dans les films précédents, ils avaient pris des comédiens plus ressemblants.
Oui, exactement.
Je pense que c'est dans la série The Crown qu'a eu le meilleur Churchill.
Oui, exactement.
Qui est absolument génial dans The Crown.
Non, mais on le voit vivre, c'est quand même le triomphe de l'alcoolisme et de l'intelligence, c'est l'éloge de l'éloquence, comment les mots peuvent changer
Scott
le monde.
Thomas, tu fais pas de la critique du
Christine
cinéma,
Scott là, Thomas, c'est formidable. Là,
tu fais l'éloge de Churchill.
Non, mais c'est le film, Churchill. Sans Churchill, il n'y a pas de film. Donc, si on aime Churchill, on va trouver ça pas mal
là,
du tout.
Mais là, justement, il n'y a ni Churchill, ni film.
C'est le film classique, bien fait par un solide artisan. Évidemment, si on veut que ce soit un film d'un pichat-pong, ça va pas être le cas.
Verra, c'est à coup.
Personne n'a demandé ça.
Verra, c'est à coup.
Non, pour moi.
Pas jusqu'au bout.
Entendre une fois de plus le fameux discours à la Chambre des communes, là, le 13 mai 40, c'est comme dans le discours d'un roi. On est emporté.
Mais est-ce que t'étais vraiment emporté, Eric? T'as senti de la tension, de la nervosité, qu'il se passe quelque chose?
Ça m'a beaucoup intéressé. Moi, j'aime bien les leçons d'histoire, et un personnage comme ça, hors du commun, bigger than life, je trouve ça mieux que certains héros des films dont on va parler tout à l'heure.
Mais pour moi, le problème, c'est que les discussions de stratégie militaire, on est d'accord, c'est vraiment pas cinématographique, quoi. C'est très compliqué, et je trouve que le réalisateur échoue complètement à donner un peu de tension, de dramaturgie et de nervosité à ces discussions interminables, et qu'il n'a pas d'autre.
Connaît la fin.
Voilà, et qu'il n'a pas d'autre idée que de nous mettre des ralentis, de faire des effets de caméra plus ou moins aériennes, et d'envahir le tout avec une musique absolument insupportable. Donc moi, je n'ai vu qu'un acteur et le film d'un chef opérateur qui a pris le titre au pied de la lettre, Les Heures Sombres. Alors tout est à contre-jour du début à la fin, quand il pleut pas, il y a vraiment mais pas un pet de lumière, et Gary Oldman qu'on ne voit plus, où effectivement ses kilos de maquillage et qui parle avec une patate dans la bouche
et
toutes ces prothèses, finalement je ne vois que l'acteur qui va chercher son Oscar. Moi, je n'ai eu absolument aucune émotion, et je trouve ça quand même dommage, alors qu'on a évidemment les fameuses saillies de Churchill, parce que c'est ce qui nous réveille un peu, c'est traits d'humour légendaire et historique, et ces grands discours effectivement patriotiques. J'aurais voulu vibrer, j'aurais voulu avoir de la
pédagogique.
Et j'étais complètement paralysée par
Eric
autant d'académisme.
On ne dit pas du tout que c'est un grand film. Si. On dit qu'il y a un contrat qui est rempli.
C'est académique, c'est scolaire.
Nous, on vous dit que
c'est
thèse, terriblement
ennuyeux.
Et vous dites que c'est un grand film. Les Heures Sombres, Churchill, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, sur le film, hein, s'il vous plaît, pas sur Churchill.
Oui, non, mais je pense que ce qui vient d'être dit, le film ne sera pas un chef-d'œuvre, mais il a le mérite de rappeler ce qu'ont été effectivement ces heures sombres de la première quinzaine du mois de mai 1940, au moment de l'attaque de Hitler contre l'Europe occidentale, contre la Belgique, la France, etc. Et effectivement, comme le disaient Monsieur Simon et Monsieur Neuhoff aussi, tout s'est joué à peu. Parce que Neville Chamberlain, qui est le Premier ministre qui va devoir quitter le pouvoir, son préféré, c'est Lord Halifax, qui est le ministre des Affaires étrangères, mais qui ne peut pas être Premier ministre parce qu'il y a le Parlement Act, ce qui empêche au Lord de diriger le gouvernement depuis la Chambre des communes. Et c'est pourquoi Churchill, malgré l'échec de Narvik, malgré déjà son échec des Dardanelles pendant la Première Guerre, va être nommé Premier ministre. Et effectivement, c'est un moment tout à fait essentiel de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde. Et je pense que pour compléter le film, pour les gens qui ont la chance de passer un week-end à Londres, de prendre l'Eurostar et d'aller à Londres, il faut visiter la War Cabinet Room. Et c'est absolument magnifique, ça complète le film. Et c'est à ne pas à louper quand même.
Heureusement, j'ai dit qu'il fallait qu'on parle du film plutôt que de Churchill. Merci pour votre intervention. On revient en France avec Normandie Nue, le nouveau film de Philippe Leguet, le réalisateur de Femmes du sixième étage et d'Alceste à bicyclette. Et c'est avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Grégory Gadebois, Toby Jones, Colin Bates et des vaches, beaucoup de vaches. On est en effet dans une bourgade champêtre de la Sarthe où les éleveurs sont frappés comme ailleurs d'ailleurs par la crise et ils sont en révolte. Ces éleveurs, le maire Georges Balbuzard, c'est François Cluzet, veut faire connaître leur combat au monde entier. Il accepte donc la proposition de l'artiste américain Blake Newman, qui est joué par Toby Jones, de photographier tous ses administrés dans un champ à vaches et leur plus simple appareil, vous apprécierez le Zeugma. Seulement voilà, par pudeur, par crainte du camp, dira-t-on, les agriculteurs rechignent à se déloquer. Le boucher du village, qui est un ami à moi, Grégory Gadebois, interdit à sa femme, qui est une ancienne miss, de se foutre à poil. Le pharmacien, qui joue les pères la pudeur. Et puis aussi, on a dans le rôle du bobo parisien, qui aime la campagne mais qui est allergique au vert, François-Xavier Demaison. Cette satire, est-ce qu'elle vous a plu, Charlotte ?
Non. Je trouve que c'est une belle idée. C'est intéressant de voir comme le milieu agricole, enfin le cinéma français s'empare de ce milieu en ce moment. Il y a eu Petit Paysan il y a quelques mois.
Ah, c'est très différent.
Qui était très différent parce qu'on était dans le registre du film noir, voire du thriller.
Là, c'est la satire.
Et là, c'est la satire et la comédie. Enfin, s'il y avait du rythme et de l'humour. Moi, je trouve que l'idée de départ, elle est effectivement assez chouette et assez jolie. Ou comment aussi un projet commun va mettre en lumière la situation difficile de ces agriculteurs et peut-être donner un peu de solidarité, ressouder cette communauté. Le problème, c'est que la galerie de personnages que Philippe Leguet nous propose est tellement convenue. Toutes les intrigues secondaires, effectivement, vous venez de citer la jalousie du boucher, il y a une histoire d'amour naissante entre deux jeunes tourtereaux ou alors un champ qui oppose deux agriculteurs qui s'en disent propriétaires depuis des générations.
Parce qu'il faut expliquer que les vieilles rancunes remontent.
Voilà, toutes les vieilles rancunes remontent. Enfin, il n'y a pas d'autre enjeu que ça. Les comédiens me semblent en totale roue libre. Et alors moi, j'ai eu quand même ce petit plaisir de voir Toby Jones parce que c'est un acteur qui est toujours vraiment assez rigolo, qui a un potentiel comique
alors, cela dit,
en lui.
Tu sais qu'il existe vraiment ce photographe.
Oui, bien sûr, c'est Spencer Tunick.
Tunick, voilà, qui photographie.
Et qui fait effectivement des
dans
très
toutes
belles
les capitales du
photos.
Monde. Il rassemble des gens à poil.
Alors là, c'est vrai que on
et
pense à The Full Monty immédiatement sur le projet général. Voilà, mais sur le résultat, moi, j'ai trouvé ça assez décevant, sans rythme, sans être vraiment drôle et très poussif, quoi. C'est quand même un peu au ras des pâquerettes.
C'est le cas de le dire, Eric.
Si les paysans ont à choisir entre le Beauvois et ce film-là, ils vont bientôt s'installer à Paris, hein, parce que... Ah, les pauvres, hein, c'est... Non, mais c'est embarrassant comme film, c'est une très très mauvaise idée, en plus. C'est complètement idiot de dire on va tous se faire photographier à poil, ça va relancer l'économie du pays, on parlera de nous. Je sais pas où il a trouvé ça. Et c'est d'autant plus gênant que le gay n'est
pas... Tu accepterais, par exemple, toi ?
Ça dépend avec qui. Mais ça dépend pourquoi, surtout. Le gay a fait des films qui n'étaient pas si mal, mais là, c'est un ratage complet. Ça part dans tous les sens, il y a un tas d'intrigues qui ne se renouent jamais. Ça commence par une adolescente qui raconte l'histoire en voix off, ensuite on passe au maire. Alors déjà, c'est le genre de film où le maire s'appelle Balbuzard. Là, Balbu. Là, c'est une idée de fin de repas. On va l'appeler Balbuzard, puis le lendemain, on dit non, ça fait trop nom de bande dessinée, ça va pas du tout. Et ça se passe au Mel sur Sarthe.
Oui.
Et moi, j'ai cru que c'était inventé, tellement ce village a l'air d'un décor.
C'est
mais
vraiment
non,
le Perche.
On nous dit qu'il y a 6000 habitants, c'est pas possible. Alors j'ai vérifié, ça existe. Oui,
absolument.
On a l'impression que c'est tourné dans un décor. L'intrigue n'a aucun intérêt. Les acteurs, mais sont quand même assez calamiteux. Faut dire, on leur fait faire des choses. bois en bouche est jaloux, il faut qu'il fasse attention, parce que un type comme Berléon l'aurait fait en rigolant, alors que lui, il prend ça au sérieux. Toby Leith, on est quand même, on a envie de lui présenter ses excuses les plus sincères de l'avoir entraîné là-dedans. Et sur un film qui se passe à la campagne, vaut mieux revoir Quelques messieurs trop tranquilles de Lautner, où il y avait un vrai sujet, il y avait un vrai texte, de vrais dialogues. Là, vraiment, c'est les paysans de Paris. Il faut que ces gens-là filment autre chose que la campagne.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment difficile de mettre moins de cinéma dans un film, quoi. Il y a vraiment, mais pas un gramme de cinéma. C'est un scénario illustré, un scénario d'un téléfilm extrêmement désuet. Le seul truc qui m'a un peu amusé, c'est que je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas sans rapport avec Visage Village de d'Agnès Varda JR, puisqu'il s'agit aussi d'un photographe reconnu internationalement, mis au contact de la France des villages. Voilà, mais sauf que dans le film Visage Village, tout à coup, on avait vraiment accès à la profondeur et à la singularité de personnes, alors que là, chaque personnage peut être défini en trois adjectifs. C'est vraiment un film très faible.
Et ils le sont d'ailleurs par la voix de la petite fille, ce qui est quand même une faiblesse, enfin une paresse de narration. Dès le début, une petite fille dit
qui est la fille
du Parisien installé là,
François-Xavier de Maison,
et sur les images on entend la petite fille, voilà, qui dit: alors là, c'est mon père, il s'est installé ici il y a quelques mois, il travaille à distance, là vous voyez, c'est monsieur le maire, il est très sympathique et tout ça. C'est l'exposition des personnages faite par une voix off en 10 minutes, c'est quand même d'une paresse
incroyable. Le personnage de la petite fille n'a pas d'autre utilité, elle disparaît complètement.
Si, parce qu'elle rêve que son père effectivement la suive et rentre lui aussi à Paris et qu'il quitte.
Et elle est contre les agriculteurs parce qu'elle est végétarienne et sur la souffrance animale. Donc il y a un petit contrepoids quand même qu'elle apporte.
Michel.
Oui, comme vous avez parlé très longuement, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Je serais moins sévère sur les comédiens, en particulier Gadebois, que je trouve assez formidable dans ce rôle du boucher jaloux. Mais en même temps, il y a un problème avec la paysannerie dans les films français. Je ne parle pas de petits paysans, qui est un film remarquable.
On dit plus paysannerie, depuis le Moyen-Âge, à peu près, maintenant.
Non.
Tu pourrais dire les gueux.
Non, un problème. Je termine ma phrase.
Le tiers état.
Si vous laissiez terminer ma phrase. Je dis avec la représentation de la paysannerie dans les films français, c'est-à-dire que quand on voit un western américain, on a des acteurs très connus qui jouent des paysans à la frontière, et ils sont totalement convaincants. Et on a beaucoup de mal à croire à François Cluzet comme un paysan. On a beaucoup de mal, c'est-à-dire une incarnation qui ne se fait pas. Et ça, c'est pas la première fois.
Enfin, il est paysan et maire, hein. Il a
oui,
la double
enfin,
fonction.
Il est maire, mais il est au départ, il est paysan. Et je trouve que c'est un peu ça. Et le problème, c'est que moi, j'aime vraiment. Je trouve que Le Guay, dans le cinéma français populaire, il essaye de faire des choses souvent originales. Ne serait-ce que Alceste à bicyclette, c'est peut-être sa plus grande réussite. Et là, il se fourvoie. Et comme vous avez déjà parlé de l'abondance des histoires parallèles, etc., je ne vais pas revenir dessus.
Normandie nue de Philippe Le Guay, est-ce qu'il y a des réactions des Normands qui voudraient s'exprimer ce soir? Non. Si la rétrospective Jean-Claude Brissot, prévue ce mois-ci à la Cinémathèque, a été reportée sinédié, pour calmer les esprits, d'après ce que j'ai compris. Je rappelle que Brissot a été condamné en 2005 et 2006 pour agression sexuelle sur trois actrices. Eh bien, la sortie de son nouveau film, elle, n'a pas été ajournée. C'est Que le diable nous emporte, avec Fabienne Babe, Anna Sigalevitch, Isabelle Prin, Fabrice Deville, Jean-Christophe Bouvet, Camille La Quarantaine, ramasse le téléphone portable rempli de vidéos érotiques que Suzy, Isabelle Prin, on dit Prin ou Prime d'ailleurs, je ne sais pas, vous savez pas, dans les uns ou les autres.
C'est le seul suspense du film.
Je pense sur vous.
Que Suzy a perdu dans une gare, les deux femmes conviennent d'un rendez-vous chez Camille, c'est Fabienne Babe, pour que la jeune fille puisse récupérer son bien. C'est l'occasion pour Suzy de faire la connaissance de Clara, Anna Sigalevitch. Anna Sigalevitch, la compagne de Camille, débarque alors Eric Fabrice, l'ex-amant de Suzy, qui essaie de la ramener chez lui. Fabrice qui va nouer une histoire passionnée avec Camille, tandis que Tonton, qui est un vieux sage qui habite au-dessus, c'est Jean-Christophe Bouvet, veut initier Suzy au yoga et à la méditation. En liminaire, cette phrase de Pouchkine, nous ne savons pas où nous allons, alors laissons le diable nous emporter. Film qui recueille cette semaine beaucoup d'éloges. Dans la presse, Eric, apparemment ça t'a pas plu ?
Bah, comment dire ? C'est comme si Hélène et les garçons avaient été réalisés par Marc Dorcel. C'est un truc qu'on voit rarement au cinéma. Bon, alors,
ça c'est bien, non ?
Oui, on peut aimer. Bon, il y a une fausse Kristen Stewart, il y a un sosie d'Amira Khazar, et il y a une vraie Fabienne Babe. Avec ça, débrouillez-vous. Et il y a aussi, au sixième étage, un vieux monsieur qui, lui, est le jumeau de Dodo la Saumure.
C'est Jean-Christophe, Jean-Christophe Bouvet.
À cette différence près qu'il fait du yoga et pas d'autres genres de gymnastique. Et alors, il se passe absolument rien. On les voit, tout ça se léchouille, se frottille, se déshabille, se filmouille. C'est... Il n'y a que des artistes là-dedans.
Du verbe filmouillé.
Oui, un peu. Il n'y a que des artistes. Alors, et puis, c'est mal écrit. Il y a une des filles qui dit « Moi, j'écris des paroles de chansons populaires. » Qui est-ce qui dit ça? On dit « J'écris des chansons », on ne dit pas « J'écris des chansons populaires ». La fille qui a perdu son portable, elle, évidemment, « Qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Je suis dans le théâtre. » Elle n'a jamais joué, on ne l'a jamais vue. Fabienne Bab, elle est un peu aussi artiste. Elle met en scène des vidéos cosmiques. Et la visiteuse qui fait ces petits trucs là avec son téléphone est très jalouse. Oh, c'est tellement beau ce que tu fais. Alors quand on voit le résultat, c'est d'un tartignol absolu. Et le fiancé qui arrive bourré avec un pistolet. Alors lui aussi, il doit écrire un livre sur le théâtre. Il se saoule la gueule sans arrêt. Et il doit vouloir passer au masque et la plume. C'est pas possible autrement.
Et il est journaliste à Libé.
Ah bah, ça explique tout. Ouais, ça aussi. Il manquait plus que ça. Non, mais...
Mais t'as pas vu la fin, en fait.
La fin, c'est... Bon, on peut pas le dire, ça. Mais c'est vraiment Brissot. Je sais pas ce qu'il a, ce type-là. Mais le film est vraiment bêta.
Toi, tu serais pas de toutes les manières allé à la Cinémathèque pour la rétrospective, donc.
Oui, moi, je suis prêt à me battre pour que Brissot puisse continuer à montrer ses mauvais films.
Michel ?
Moi, ça me rend triste un peu, parce que j'ai
qu'est-ce
beaucoup...
Qu'est-ce qui te rend triste ?
Le film.
Ah bon, parce que dit Eric ?
Non, pas ce que dit Eric du tout. Non, parce que j'ai beaucoup admiré, je trouve que Brissot était un franc-tireur dans le cinéma français, et les films comme Noce Blanche, comme De Bruit et de Fureur, où d'ailleurs on avait découvert Fabienne Bab, qui était formidable. Alors il y a cette phrase qui est dite par Bouvet dans le film, le personnage de Bouvet, Tonton, qui dit « Ce sont les grands pécheurs qui sont les plus proches de Dieu ». Alors on sait ça depuis Huysmans et Léon Blois, que entre effectivement les abîmes du stupre et puis la sainteté, c'est pas tellement loin. Alors Brissot, c'est un peu ça. Il fait coexister dans ses films toujours une sorte de surréalisme ou d'élévation de l'esprit, puis en même temps des scènes un peu porno ou des scènes hard.
Non, c'est pas porno.
Non, mais c'est hard, c'est du hard. Moi, ça m'a un peu gêné. C'est-à-dire, le côté Benazéra, qui dit pas grand-chose à beaucoup d'éditeurs, mais qui était le roi du film pornographique français, je préfère le côté Romère, parce qu'il y a un côté Romère aussi. C'est Romère qui a découvert Brissot, qui l'a encouragé à faire du cinéma.
C'est Romère ou Benazéra,
il avait raison.
Choisir.
Alors le côté Romère, c'est les rapports entre les jeunes femmes qui sont parfois amusants, intéressants, psychologiquement et tout. Puis le côté Benazéra, c'est un monsieur de 70 ans et quelques qui se rince l'œil en montrant du triolisme saphique. Et je crois que la plupart, je dirais même pratiquement tous les grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma ne sont pas obligés de passer par là pour s'exprimer. Donc je trouve là, c'est vraiment gênant. Et c'est là où la vie retrouve l'œuvre et que ça se confond un peu et ça me gêne un peu. Il y a un côté un peu voyeur qui m'a assez embarrassé.
Qu'en pense Charlotte ?
Moi, il m'a fallu quelques minutes quand j'ai vu le film pour effectivement essayer de ne plus penser que c'était un film de Jean-Claude Brissot, c'est-à-dire pour ne pas que ma tête soit parasitée par tout ce que je sais de la personnalité de ce réalisateur qui ne m'est absolument pas sympathique. J'ai eu un peu du mal à oublier ça et quand même... Voilà, j'étais face à cet objet extrêmement étrange d'un vaudeville érotico-intello avec des répliques extrêmement théâtrales qui sonnaient complètement faux. Et puis, petit à petit, je ne sais pas grâce à quoi, c'est assez mystérieux.
Au sommeil.
Est-ce que c'est grâce, pas du tout, aux actrices que je trouve assez bonnes, grâce à l'humour que je ne connaissais pas de Brissot, parce que c'est assez drôle. Là, mes camarades ne l'ont pas dit, mais il y a quand même des choses assez drôle.
C'est pas un film qui frappe par son humour, quand même.
Le personnage de Tonton
est
très drôle.
Non, mais quand même, le personnage de Tonton est extrêmement drôle. Ces images, effectivement, très kitsch dont parle Eric, ces orgasmes cosmiques, on dirait un clip de Sébastien Tellier, c'est à prendre au second degré, c'est quand même très drôle. Et ben, petit à petit, je me suis laissé prendre, j'ai été, pardon.
Ah, c'est toi dans le film?
Pardon, l'expression est malheureuse.
Je vais te filmer avec mon téléphone.
J'ai trouvé beaucoup de charme et j'ai été touchée par la singularité de cet objet cinématographique qui ne ressemble à rien. Et je trouve qu'effectivement, Brissot continue dans cette veine qui n'appartient qu'à lui. Alors, faut oublier ce qu'on sait du réalisateur et se laisser surprendre. Le film est très surprenant. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même le portrait de trois femmes qui cherchent à s'épanouir avec ou sans les hommes. Et c'est un beau portrait de femme.
Jean-Marc.
Effectivement, c'est un trajet très étonnant parce que, comme l'a dit Michel, ça a toujours été un franc-tireur à Brissot, mais à un moment donné, il a atteint, au moment de Noce Blanche et L'Ange Noir, le centre du cinéma français avec des films très produits. Et là, depuis quelques films, il est de plus en plus seul. Et je pense que c'est à la fois ses avantages et ses inconvénients. Effectivement, ces films sont un peu hors sol, totalement dérégulés. On ne sait pas trop de quel moment ça parle. Et ça a quelque chose de quand même dérangeant, à la frontière d'une forme de ridicule. Et en même temps, cette solitude produit aussi quelque chose de très puissant. Et dans ses meilleurs moments, on a vraiment l'impression d'être directement branché à l'inconscient de quelqu'un, à être dans sa tête. Il est vraiment au cœur de ses obsessions et avec la naïveté qui va avec. Et cette manière comme ça de faire fusionner de la peinture médiévale avec de l'art vidéo des années 60 au bord de Jean-Christophe Averty, ça produit, comme le disait Charlotte, quelque chose de très étonnant, de très fascinant et de finalement très puissant. Et ce qui est beau chez Brissot, c'est ça tient à sa naïveté et ça tient vraiment au fait qu'il croit vraiment à ses visions. C'est-à-dire qu'il cherche une forme d'extase, qu'elle soit érotique ou mystique, et ce qu'il montre de surréel, il y croit vraiment. Et ça, c'est quand même ça touche à quelque chose qui est la quintessence du cinéma.
Avec que un petit détail qu'on n'a pas dû, pardon Jérôme, c'est que il y a cette grande curiosité, le film est en 3D.
Oui, en 3D, oui.
En 3D, on l'a pas dit.
Il n'y avait aucune différence.
Mais effectivement, on ne sait pas pourquoi. Non, mais je suis d'accord.
Mais moi, c'est pareil. Hein.
Mais signalons tout de même qu'il est en 3D.
Enfin bon. Que le diable nous emporte, Jean-Claude Brissot. Est-ce qu'il y a des réactions dans toutes les dimensions dans ce studio? Non. El Presidente, un film de l'Argentin Santiago Mitre, le réalisateur de Paulina. C'est un beau film, je trouve. Avec l'impérial Ricardo Darín dans le rôle d'Hernán Blanco, un nom rêvé pour un président argentin qui est élu pour sa probité, qui d'ailleurs prétend être un homme normal. Il faut imaginer un François Hollande latino-américain avec la coupe grise de George Clooney. Au début du film, Blanco embrasse sur le tarmac de Santiago la présidente chilienne. Il vient participer dans un grand hôtel high-tech de la cordillère des Andes. Il vient participer à un sommet qui réunit tous les chefs d'État d'Amérique latine pour décider d'une politique énergétique commune. Et puis, il va être rattrapé dans le film par un drame qui touche sa fille, qui touche aussi son gendre. Tout cela menaçant de ternir son image. Alors, ça commence comme un documentaire. Ça se poursuit sur le mode, on pourrait dire, du thriller politique, sans grand enjeu de thriller d'ailleurs. Et ça finit, alors là, moi, ça m'a trouvé, à ce moment-là, je trouvais ça très intéressant, à la frontière du fantastique. On ne sait pas dans quelle zone on se trouve exactement. Charlotte.
Mais oui, vous l'avez très bien résumé, Jérôme. C'est ça qui est totalement incroyable dans ce film, c'est que ça démarre sur cette frontière vie privée, vie publique. Le drame dont vous parlez est une affaire de corruption quand même. Donc,
oui, enfin, c'est une corruption qui touche le gendre.
Et qui pourrait l'atteindre par ricochet.
Qui, éclaboussant la fille, va effectivement...
Le toucherait effectivement lui. Donc on part sur un thriller politique et puis petit à petit, il y a des petits signes comme ça, des choses qui se passent où là, on frôle le fantastique et c'est...
Rien que le lieu d'ailleurs, cet hôtel.
Le décor est incroyable, un espèce d'hôtel hyper chic comme ça, à 3000 mètres d'altitude. Ou pour y arriver, il y a absolument, il y a des lacets de route et dont on voit le balai des voitures officielles dans toutes ces méandres des routes qui évidemment rappellent un peu les méandres mentales, on va dire, et des manipulations des uns et des autres. Parce que le film, alors il a beaucoup d'atouts pour moi ce film. Brièvement, il est extrêmement bien dialogué, c'est-à-dire que tous les jeux de pouvoir et d'influence se lisent dans les sous-textes. Tout est dit sans être vraiment dit. On comprend tout dans les creux. C'est assez fascinant. Le décor, bah, on en a parlé, est assez imposant. Et puis le regard de Ricardo Darín, quoi. Je veux dire, il a un regard totalement mystérieux, insondable, où au bout de deux heures de film, je ne sais toujours pas si je trouve cet homme sympathique ou pas. Il reste très mystérieux,
d'autant,
ce que je trouve une grande force.
L'intrigue proprement dite,
elle
reste,
va s'effacer. Elle
oui, reste, reste très énigmatique.
Elle reste énigmatique, tout comme la fin qu'on ne révélera pas, qui pourrait paraître frustrante. Et finalement, je trouve que c'est la force du film qui nous laisse avec plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Avec, à l'intérieur du film, des séances d'hypnose qui sont très importantes. Michel.
Oui, alors moi, je trouve que c'est un film vraiment passionnant. C'est sur le pétrole, évidemment. C'est la façon, est-ce que les pays d'Amérique latine vont céder à la pression américaine du Nord, ou est-ce qu'au contraire, ils vont s'unir? Le Brésil, c'est Lula qui inspire le personnage du Brésilien, du président brésilien, évidemment, et s'oppose à l'Amérique. Les Mexicains sont du côté de l'Amérique.
C'est un sommet, il faut le dire, totalement imaginaire. Ça n'existe pas. Hein.
Absolument. Mais en même temps, qui se réfère à la situation politique. Et avec ce président argentin qui est entre les deux, dont on ne sait pas exactement s'il va accepter la corruption ou non. Moi, ce qui me gêne dans le film, que je trouve vraiment un film à voir, hein, c'est un film très très intéressant, très rigoureux dans la mise en scène, c'est que ses troupes, peut-être, il n'a pas les moyens de son ambition. C'est-à-dire que bon, il faudrait Otto Preminger pour faire ce film. C'est-à-dire, il faudrait le Otto Preminger du mystérieux docteur Corvo, puisqu'il y a un médecin hypnotiseur, il y a une histoire fantastique qui n'est pas tellement intégrée au reste du récit, qui détonne, parce que il maîtrise moins le fantastique qu'il maîtrise le politique.
Il faudrait le
Preminger de Tempête à Washington associé au Preminger des films noirs avec Jean Tierney. Mais ça ne se rencontre jamais et le film reste en deçà de ses ambitions, mais c'est tout de même un film très intéressant.
Éric ?
Ben, je suis un petit peu d'accord avec Michel sur le côté hypnose qui n'apporte pas grand-chose. Là, moi, je trouve qu'en plus, il l'abandonne, mais pour nous, c'est très bizarre ce film parce que c'est un président qui veut être normal. Alors, on pense aussitôt à quelqu'un, nous. Quand on a vu le résultat, on sait comment le film va finir.
C'est ce que je disais quand même tout à l'heure.
Mais oui, il y a deux atouts dans le film, c'est la politique, enfin trois même, la politique, Ricardo Darín et ce décor-là, parce que Mitre tire parti de cet hôtel-là, avec ses façades de verre, ses couloirs, ses routes sinueuses, avec ce balai de limousine noire qui arrive, et ce Davos sud-américain, avec les enjeux qui s'y déroulent, c'est quand même une bonne surprise. Et on retrouve Christian Slater, qu'on avait passé par Pertes et Profits en émissaire américain, qui est très inquiétant, très subtil, très duplice.
Pour une rencontre d'ailleurs qui est assez romanesque.
Et quand on sait que tout ça n'a jamais existé, là, Mitre est assez fort pour raconter une histoire comme ça. Et Darín, là, est un personnage complètement mystérieux. On ne sait pas s'il est sympathique, s'il est pur, s'il est blanc, s'il a fait des choses épouvantables. Et le film reste ouvert, c'est à la fois sa force et sa faiblesse.
Jean-Marc ?
Oui, c'est surtout, je pense, un très bon scénario qui est très habile pour enchevêtrer les registres, pour enchevêtrer le public et le privé, avec un personnage de nos pouvoirs très complexe, très ambivalent, porté par un très bon acteur. Je pense que Mitre, dans ce film en tout cas, est un très bon cinéaste de climat, d'atmosphère. Dès qu'il filme les couloirs d'hôtel, c'est assez beau. Par contre, je pense que ce qu'il rate, c'est filmer la parole. C'est-à-dire que le film devrait être entièrement fait sur la parole politique, la parole de l'hypnotiseur, une parole qui devient un acte, une action. Et ça, à mon avis, quand il filme la parole, ça devient un tunnel. Je trouve qu'il ne sait pas rendre cinématographique ces longs moments de dialogue et que ça pèse un peu sur le film qui, par ailleurs, je suis d'accord, est vraiment intéressant.
C'est quand même tout à fait intéressant. Elle, présidente de Santiago Mitre, pas de réaction. Rapidement, juste, vous me dites ce que vous pensez de Vers la lumière de la japonaise Naomi Kawase. Je rappelle Caméra d'or en 97 pour Suzaku, et là c'est avec Masatoshi Nagase et Ayame Miyazaki, l'histoire que j'ai trouvée personnellement un peu appuyée de la rencontre entre une femme audio-descriptrice pour le cinéma, qui traduit donc les images pour les non-voyants, et un photographe qui est en train de perdre la vue, avec une musique mais alors sirupeuse à la puissance 10 d'Ibrahim Malouf. Et puis ça dure 1h43, mais peut-être que vous allez le défendre, mais rapidement, Jean-Marc.
Je ne l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu. Éric.
Le précédent film de Kawase s'appelait Les Délices de Tokyo, où il y avait une grand-mère qui préparait des gâteaux. Puis là, on reste un peu dans la confiserie, mais on passe à la guimauve. C'est vraiment un film très très décevant, très plein de couchers de soleil,
très,
de rayons,
très attendu,
très attendu, de musique sirupeuse. Non, c'est dommage ça, parce que il y a des choses qui sont plus possibles à faire. À un moment donné, il y a une statue de sable qui disparaît sans laisser de traces. Et il y a aussi un des personnages qui dit « Le photographe est un chasseur dont la proie est le temps ». Alors là, quand on entend ça dans un film, on va vite se coucher parce que c'est pas possible, ça.
Michel ?
Il y a toujours eu chez Kawase une sorte de prétention un peu aussi au prêchi-prêcha, philosophie fumeuse. Elle avait fait un joli film l'année dernière, Les Délices de Tokyo. Du coup, elle n'avait pas été sélectionnée en compétition. Ouais. On l'avait mis dans une section parallèle. Et donc, elle est retombée dans ses défauts pour être en compétition. Elle l'a été. Donc, on a ce film qui aurait été un documentaire passionnant parce que c'est une femme qui essaye de trouver le moyen de décrire des images de films, mais oui, pour des aveugles. Oui, c'est passionnant, parce qu'on montre
déjà
la difficulté de décrire. Malheureusement, ça aurait été un formidable documentaire. Au lieu d'être un documentaire, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un mélange de philosophie complètement désuète et de mielleux sentimental.
C'est à l'image du titre, d'ailleurs, Vers la lumière.
Oui, le titre est très programmatique.
Charlotte, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense je trouve beaucoup de belles idées dans le film, mais il est tellement lourd dans sa démonstration et dans ses métaphores qu'on ne voit que la fabrication des émotions qu'elle voudrait susciter. Du coup, moi, je n'en ai eu absolument aucune. Effectivement, Éric donnait une phrase, moi, j'en avais noté une autre. Alors, faut imaginer que les deux protagonistes regarde bien fixement un coucher du soleil avec une musique sirupeuse et beaucoup de trompettes, hein, beaucoup trop de trompettes. Et là, il y a l'un des deux qui dit « Rien n'est plus beau que ce qu'on voit qui va disparaître ». Enfin, voilà, tout est comme ça. C'est désarmant.
C'est beau, ça.
Je note.
C'est beau.
Sur un coucher de soleil, Jérôme.
Nippon. Vers la lumière, Naomi Kawase, enfin, ce qu'il en reste. Et là, rapidement, seul sur la plage, le troisième film du sud-coréen Aung San-Suu qui a valu à son interprète Kim Min-hee l'ours d'argent de la meilleure actrice. Elle incarne une actrice de cinéma qui a une liaison avec un homme marié et père de famille. Alors, et c'est la première partie du film, la grande première partie, alors qu'elle se trouve en Europe, elle se demande si son amant va ou non la rejoindre. Et dans la seconde partie, où on comprend qu'elle a fui le scandale provoqué par son histoire avec un cinéaste, l'actrice est de retour en Corée et elle noie son désespoir et sa colère dans l'alcool, ce que fait souvent Michel, et croise lors d'une soirée celui qu'elle a aimé. Est-ce qu'on peut dire, sans être tout à fait...
Non, on ne va pas dire.
Non,
on ne dit pas.
Alors je dirais que c'est un film éminemment personnel et sans doute très cathartique pour Aung San-Suu. Pourquoi tu me reproches de le dire ?
Oh bah alors, allez-y, allez au bout de votre phrase.
Ok, d'accord, je n'ai rien dit. De toutes les manières, on a peu de temps. Charlotte ?
Moi, je trouve que c'est l'exact opposé du film de Kawase, qui était très lourd dans sa démonstration. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la poésie. C'est un cinéma qui est fait de petits riens, de gestes simples, avec des motifs récurrents, comme les scènes de repas qu'on retrouve beaucoup dans les films de Aung San-Suu. Alors, il faut accepter quand même que tout ne soit pas totalement lisible. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on ne sait plus très bien où on est, dans quelle temporalité on est. Néanmoins, moi, j'ai été très touchée par la mélancolie, le spleen et le désarroi que traverse ce personnage qui jamais n'explose. C'est-à-dire, c'est un désarroi qui est finalement toujours un peu ouaté, un peu tamisé et que je trouve assez bouleversant.
Jean-Marc, tu l'as vu celui-là ?
Oui, je l'ai vu, oui. Et d'une certaine façon, je continue à le voir parce qu'il y a un effet double détente chez Aung San-Suu. Ces films sont très ramassés et le moment où on voit le film n'est pas le plus intense. Et c'est des films qui ne cessent de grandir et de hanter vraiment, qui déposent un germe, je trouve. Et j'y repense sans arrêt. C'est un film magnifique sur le chagrin, sur ce que c'est que la reconstruction après des déboires sentimentaux et la manière dont il se passe très très peu de choses, mais où ce temps presque gratuit, presque inutile, remplit le film, et le film est vraiment gorgé de quelque chose. C'est d'une beauté, d'une profondeur inouïe.
Eric ?
C'est une drôle de chose, ça, ce film-là, parce que on est un peu perdu. Vous savez, au cinéma, de temps en temps, quand on est fatigué, on se dit « je vais fermer les yeux 10 secondes » et puis on se réveille, on ne sait pas combien de temps après. On reconnaît vaguement les personnages, mais on ne sait plus très bien ce qu'ils font. Et là, j'ai eu cette impression-là, alors que j'ai pas dormi une seule seconde.
Bah, que tu dis.
Non. J'aurais voulu un peu, mais j'ai pas réussi. Et on sait pas de qui sont ces gens, de quoi ils parlent. C'est pas désagréable, hein, du tout. Là, ils sont à table, ils se disputent, ils rappellent leurs souvenirs. À un moment donné, la fille dit au cinéaste, oh, mais toi, tu racontes toujours les mêmes histoires, tu ne parles que de toi, là, c'est un petit clin d'œil. Et il y a la musique de Schubert qui baigne tout ça. Pendant un dîner, il y a deux femmes qui s'embrassent, parce que ça, maintenant, il faut absolument qu'il y ait un truc comme ça dans chaque film pour réveiller les gens. Et c'est pas désagréable, mais le jour d'après était 100 fois meilleur, plus maîtrisé. Et là, peut-être que lui, il s'est fait plaisir, avait besoin de ça à cause de son histoire avec l'actrice. Mais
tu vois, il l'a dit, lui. Il l'a dit.
Bon. Voilà, c'est une aquarelle très délavée, quand même.
Michel.
C'est le seul film de cette soirée que je défends sans réserve, que j'ai aimé totalement. Je pense que
c'est vrai.
Ah oui, c'est un film magnifique.
Jusqu'à la fin.
Je m'y sens très bien dans ce film. C'est-à-dire que c'est un film sur la lenteur, mais c'est une lenteur qu'on accepte tout de suite. C'est un film magnifique sur la déprime, comme le disait Jean-Marc. Et c'est à la fois une psychologie d'une déprimée, ce qui arrive à une femme déprimée, ses coups de colère, sa beuverie, etc. Et en même temps, c'est un film philosophique sur la difficulté de se connaître soi-même, la difficulté de connaître ses propres sentiments, comment on n'y arrive pas vraiment. Et c'est donc une réflexion aussi philosophique, tout cela avec une approche extrêmement simple. À mon avis, Aung San-Suu est l'enfant, évidemment par des moyens modernes, c'est l'enfant de Ozu et de Romer. C'est l'enfant de Ozu et de Romer, et ils se sont rencontrés, Ozu et Romer. Ils ont eu cet enfant qui est Aung San-Suu, qui a fait 20 films en 20 ans, et qui est un des cinéastes majeurs, je crois, du cinéma coréen d'aujourd'hui, et pas seulement coréen.
Et il y a un gros dossier, Michel, dans ta revue Positif, consacré à Aung San-Suu, le réel insaisissable.
Et notamment, voilà, le réel insaisissable, c'est ce que j'essayais de formuler.
Et notamment un texte, moi c'est, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais qui me fascine déjà, la scène de sexe hongienne. Donc c'est le positif de ce mois-ci. Allez, le temps est venu de me dire ce que vous nous
conseiller, ça peut être des films, ça peut être des DVD, ça peut être des expositions, ça peut être des restaurants, des sorties en bateau. On va commencer avec Charlotte Lipinska.
Alors moi je vous conseille un film qui nous vient de Zambie, qui est sorti, un film zambien qui est sorti il y a quelques semaines déjà, mais qui est encore à l'affiche, I'm Not a Witch, un premier film de Rungano Nyoni, l'histoire d'une petite fille qui a 9 ans, qui est accusée de sorcellerie et qui est donc envoyée dans un camp de sorcières où elle doit rester attachée avec un ruban blanc. Et de là, elle n'a que deux choix. Soit elle accepte sa condition de sorcière, soit elle coupe le ruban, auquel cas elle se transformera en chèvre, comme le dit la croyance. Et ben, vous irez voir le film qui est vraiment étonnant et qui a finalement beaucoup d'humour malgré la gravité du propos. C'est un premier film donc qui est cocasse, qui est très étonnant, qui est à la fois drôle, encore une fois. Voilà, I'm Not a Witch, à ne pas rater.
Le conseil de Michel.
Alors moi, ce sont deux livres. D'abord, on vient de parler d'Aung San Suu, c'est un volume aux éditions de l'Incidence qui s'appelle Les Variations Aung San Suu. C'est un livre collectif, une vingtaine d'essais. Il n'y a pas grand-chose sur Aung San Suu en français. Bon, il y a ce numéro de positif.
Ah oui.
Mais de Simon Danielou et Anthony Fion, qui est vraiment un livre passionnant à lire, pas jargonnant du tout. Et puis le deuxième livre, c'est un des derniers livres qu'a publié POL avant sa disparition. Ça me permet de dire le respect que j'avais pour ce grand éditeur. C'est un livre très passionnant de Jean-Paul Sivérac, un metteur en scène qui a plusieurs films à son actif, d'ailleurs des films intéressants, qui a analysé 10 minutes, je le conseille à tous les critiques de cinéma qui souvent racontent les films comme si c'était des livres. Là, il parle de cinéma. C'est-à-dire, c'est une série de photogrammes, 60 photogrammes. Il analyse 10 minutes du Lilium de Franck Borzégui, un film de 1930. Ça s'appelle Rose pourquoi. Et il analyse les échanges de regards et le mouvement des corps dans ces 10 minutes. Et c'est une leçon vraiment de mise en scène par un metteur en scène.
Le titre?
Rose pourquoi. Donc, de Jean-Paul Sivérac chez POL.
Mon conseil, c'est aussi un livre, il s'appelle Le Figurant, c'est chez Gallimard, et qui est un roman en forme de récit où Didier Blonde, c'est l'auteur, sort de l'oubli deux inconnus qui auraient été figurants sur le tournage à Montmartre en 68 de Baiser volé de Truffaut. Truffaut qui d'ailleurs, ça c'est très méticuleux dans le livre, se rongeait les ongles, pendant que Jean-Pierre Léo ramenait sans cesse sa mèche en arrière, et c'est l'occasion de faire un portrait merveilleux de ceux qu'on appelle des silhouettes ou affreusement des acteurs de complément et dont il dit, Didier Blonde, dans une très belle formule, qu'ils ne sont qu'eux-mêmes. Et c'est Le Figurant chez Gallimard. Le conseil d'Éric.
Le monde est Stone. C'est le forum des images qui a laissé les clés à Oliver Stone jusqu'au 28 février. Alors il a choisi 80 films et du 24 au 28 janvier, il présentera les siens en public et ça risque d'être très intéressant. Et dans la liste de ceux qu'il a choisis, il y a des grands classiques de Kubrick, il y a Easy Rider, il y a Retour de Al Ashby, il y a plus rare Bug de Friedkin, mais j'ai repéré surtout deux pépites, c'est The Swimmer de Frank Perry, qui est tiré d'une nouvelle de John Cheever qui aurait dû être inadaptable. C'est l'histoire d'un banlieusard qui, le soir, quand il rentre chez lui, traverse toutes les piscines de ses voisins pour en
avoir. Burt Lancaster.
Ouais, avec Burt Lancaster en maillot de bain. Et on retrouve Burt Lancaster dans un autre truc assez peu trouvable. C'est Executive Action de 73 sur l'assassinat de Kennedy, sur un scénario de Dalton Trumbo avec Robert Ryan et aussi Burt Lancaster qui a remis un costume pour l'occasion.
Et donc les deux seront visibles.
C'est jusqu'au 28 février, il faut regarder le
forum des images. Est-ce qu'il y aura son film à la gloire de Poutine?
L'émission se termine là, Michel. Le conseil de Jean-Marc?
Une rétrospective, celle que la Cinémathèque française consacre à Samuel Fuller, grand cinéaste dont l'œuvre couvre 4 décennies, qui a un peu révolutionné le filmage de l'action dans le cinéma américain. C'est l'auteur de Du port de la drogue, de The Big Red One, Dressé pour tuer. Et en plus de la rétrospective, il y a aussi 2 livres qui sortent sur Fuller, plus un documentaire réalisé par sa fille, donc une grosse actualité Fuller.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Michel Simon, Jean-Marc Lalanne et Éric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sélam. Et ce soir, au Charles Trenet, à la technique, et je les remercie, Philippe Mercher, Tar Bouklifa, ainsi qu'Emmanuel Armingue. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le vendredi 26 janvier. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour 2 émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parlera de livres. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.